bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. ArcelorMittal est poursuivi pour gestion irrégulière de ses déchets dans le Grand Est en France. La procureure hier a requis 50 000 euros d'amende. Les deux parties ont joué sur les termes de la pollution hier au procès compte rendu à suivre. Nous reviendrons également sur les élections européennes. La majorité tend la main aux écologistes, arrivés troisième dimanche, quand la droite malmenée annonce des états généraux à la rentrée. L'Europe et une réunion de ses chefs d'État et de gouvernement, ce sera ce soir à Bruxelles. Les négociations débutent déjà pour former des groupes parlementaires. Et puis dans cette édition, nous irons en Israël. Il reste seulement 48 heures au Premier ministre Benjamin Netanyahou pour trouver un gouvernement de coalition. 50 000 euros d'amende requis à l'encontre du géant de l'acier, ArcelorMittal. Il était jugé hier après-midi à Thionville, accusé d'avoir déversé de l'acide sur le dépotoir industriel, le crassier de l'usine. Un ancien chauffeur, Karim Ben Ali, avait lancé l'alerte il y a presque deux ans. Après une enquête préliminaire, la justice a estimé hier qu'il n'y avait pas eu de pollution, qu'il s'agissait en fait d'eau usée avec un faible pourcentage d'acide chlorhydrique. Mais ArcelorMittal est tout de même poursuivi pour gestion irrégulière de ses déchets. Et c'est là-dessus qu'a dû s'expliquer la patronne de l'usine, Cécile Soulet.
À la barre du tribunal, la directrice d'ArcelorMittal Florange tente de se défendre, mais elle est rapidement bousculée par la présidente. Plusieurs infractions au code de l'environnement sur la traçabilité des déchets, leur stockage ont été constatées. Nous avions des tableaux Excel, se justifie la patronne de l'usine. Pas suffisant, il fallait en registre, lui répond la magistrate. On en vient à la question centrale, quels déchets étaient véritablement autorisés sur le crassier? Le responsable de la direction régionale de l'environnement explique que seuls les bouts d'hydroxyde de fer y étaient acceptés et en aucun cas les eaux usées. Or, dans la vidéo de Karim Ben Ali, on voit les deux, un procédé irrégulier confirmé par des responsables de l'usine. Sévère, la procureure de la République dénonce des méthodes pas acceptables pour un grand groupe qui, dit-elle, doit s'engager davantage dans l'environnement. Elle requiert 50 000 euros d'amende. Karim Ben Ali, qui s'est à un moment emporté pendant l'audience, trouve que ce n'est pas assez.
Ils ont abusé du crassier. Oui, ça me conforte, mais je crois que 50 000 euros, ouais, c'est pas assez. J'espère que le groupe ArcelorMittal se lancera dans l'écologie, mais pour de vrai.
Pour l'avocat de la communauté d'agglomération du Val-de-Fensch, le numéro 1 de la sidérurgie à travers ce dossier ne montre pas beaucoup de respect pour le territoire sur lequel il est implanté. L'avocate d'ArcelorMittal, de son côté, a plaidé la relaxe, pure et simple.
Le jugement sera rendu le 23 septembre prochain. C'est une autre forme de pollution, le trafic automobile. Il affecte directement la santé respiratoire des habitants dans les aires urbaines et à très court terme. Voici le résultat d'une enquête publiée par l'INSEE. La fréquentation des urgences augmente notamment pour des pathologies respiratoires et ce, lors des jours de grève dans les transports en commun. Voilà des préoccupations portées par les écologistes. Ils sont arrivés troisième dimanche aux élections européennes en déjouant les projections des instituts de sondage. Les Verts ont recueilli 13,5% des voix et ça ne laisse pas la majorité gouvernementale indifférente, Rosalie Lafarge.
La majorité a beaucoup misé sur l'écologie dans la campagne, du recrutement du Vert Pascal Canfin pour épauler Nathalie Loiseau au soutien de Daniel Cohn-Bendit, en passant par la convocation juste avant le scrutin par le président de la République du Conseil de défense écologique ou encore plusieurs mesures phares dans le programme de la liste Renaissance. Ça n'a pas suffi à rapatrier tous les écolos, ils ont manifestement préféré l'original Europe Écologie Les Verts. Le vote écolo aux européennes se traduit jusqu'ici, en tout cas rarement dans les mêmes proportions, aux élections municipales ou présidentielles. Mais aujourd'hui, Yannick Jadot compte, et La République En Marche l'a bien compris. Message reçu, a même glissé dès dimanche soir le Premier ministre, Édouard Philippe. Écartant tout changement radical de cap, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, reconnaît tout de même qu'il va falloir élargir la politique nationale et européenne vers cette question écologique. Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, y va encore plus franchement. Elle tend la main clairement à Europe Écologie Les Verts pour agir ensemble au Parlement européen comme aux municipales à venir. Yannick Jadot, lui, pour l'instant, se rêve en rassembleur et entend bien se poser en alternative crédible au vieux monde libéral qu'il dénonce. Et là-dedans, il met la droite, la gauche et Emmanuel Macron.
Autre discussion qui font suite au scrutin européen chez le parti Les Républicains, qui a comptabilisé un peu plus de 8% des voix seulement dimanche. Certains élus demandent le départ de leur patron, Laurent Wauquiez. Hier, un bureau national s'est réuni. Sur les 80 membres de la structure du parti, une cinquantaine étaient présents. Laurent Wauquiez a proposé de tout remettre à plat en organisant des états généraux de la droite à la rentrée prochaine. Scepticisme de Valérie Pécresse ou de Éric Woerth. En revanche, Nadine Morano, députée européenne sortante, a voulu faire le service après-vente.
Ce qui a été demandé, c'est qu'on travaille beaucoup,
pour proposer des idées nouvelles aux Français. C'est ce que nous allons faire. Mais que ici, vous savez, chez les Républicains, il faut que tout le monde y trouve sa place. J'étais contente de voir Valérie Pécresse et je lui dis que le travail qu'elle doit mener, si elle a des idées à porter, eh bien qu'elle les porte ici dans cette maison, puisqu'elle est membre de cette famille politique, qu'elle les porte ici, mais pas à l'extérieur. Que tout le monde doit travailler ici et ensemble, comme on a su le faire en 2007.
Des propos recueillis par Anne Fauquemberg que nous retrouverons dans le journal de 7h tout à l'heure sur France Culture pour plus de précisions sur les positions des uns et des autres au sein du parti Les Républicains. Avant cela, l'Europe encore et les difficiles négociations qui débutent pour former des groupes parlementaires et pour désigner les postes clés, notamment la présidence de la Commission européenne. Hier, le président français Emmanuel Macron a dîné avec le premier ministre espagnol socialiste Pedro Sanchez. Comme une première ébauche d'une possible alliance entre libéraux et socialistes, il y a en tout cas plusieurs combinaisons possibles. Le politologue Olivier Costa est directeur de recherche au CNRS, spécialiste des institutions européennes. Il décrypte pour nous ces combinaisons.
Beaucoup pensaient qu'on pourrait avoir une configuration sans les démocrates chrétiens, c'est-à-dire les socialistes plus les libéraux plus les verts, mais ils n'ont pas assez de sièges, ils n'en ont qu'environ 320, ce qui est insuffisant. Alors maintenant, certains pensent qu'il pourrait y avoir une coalition entre les démocrates chrétiens, les socialistes et les verts, contre en quelque sorte les libéraux, à qui on voudrait faire payer un peu leur impudence et leur prétention à être au centre du jeu. Mais là aussi, ça va être relativement court, ça donnerait une majorité, mais qui serait assez fragile, et la capacité des verts et des démocrates chrétiens à s'entendre sur le long terme, je ne parierais pas trop dessus. Je pense que le plus logique, ce serait une coalition renouvelée entre les socialistes, les démocrates chrétiens et les libéraux, qui donnerait une majorité relativement confortable, mais il est clair que les libéraux, qui se sentent un peu poussés des ailes, ils ont gagné quasiment 40 sièges, et ils vont avoir des exigences relativement fortes pour participer à cet accord.
Olivier Costa, interrogé par Stanislas Vazak, un Conseil européen se tiendra ce soir à Bruxelles avec les chefs d'État et de gouvernement des 28 pays membres. Le Parlement israélien a effectué hier un premier pas vers de possibles élections. Il a voté en première lecture sa propre dissolution face à l'impasse des discussions menées par le Premier ministre israélien. Le pays n'a toujours pas de gouvernement depuis 2 mois maintenant. La formation de Benjamin Netanyahou patine sur une opposition entre le camp laïque et le camp religieux, mais elle se veut encore confiante, Marie Semelin.
Il peut se passer beaucoup de choses en 48 heures, c'est ce qu'a dit Benjamin Netanyahou hier soir. Lui ne veut pas bien sûr de nouvelles élections et aux précédentes législatives en 2015, un accord avait été trouvé au tout dernier moment. Ce qui bloque ici, c'est un désaccord entre la droite religieuse et la droite laïque. Le Premier ministre a besoin des deux pour un gouvernement, mais elle s'oppose sur une problématique majeure en Israël. Les juifs ultra-orthodoxes sont dispensés de services militaires normalement obligatoires. Problème, le faiseur de roi de ce potentiel gouvernement est un laïc fervent, l'ancien ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, qui refuse aux ultra-orthodoxes ce privilège et veut pousser à leur enrôlement. Sans accord, la perspective de nouvelles élections se rapproche, mais le cauchemar pour le Premier ministre, ce serait un autre scénario permis par la loi israélienne, la nomination de son grand rival, Benny Gantz, pour qu'il tente à son tour de former une coalition. L'urgence pour Benjamin Netanyahou reste de se protéger de la justice. Il veut faire avancer un projet de loi lui garantissant l'immunité, car il risque une mise en examen pour fraude, abus de confiance et corruption.
Marie Semelin à Tel Aviv pour France Culture. Le conseil d'administration de Renault a commencé hier à examiner la possible fusion entre Renault et Fiat Chrysler. Il devrait prendre une décision la semaine prochaine, alors que le gouvernement français a déjà dit qu'il était favorable, tout comme l'Italie. Les syndicats de Renault, en revanche, craignent des risques de réduction d'effectifs. Les billets de 100 et de 200 euros font peau neuve. La Banque Centrale Européenne les a présentés hier. Ils sont censés être truffés de dispositifs qui empêchent toute contrefaçon. Mais seront-ils vraiment infalsifiables ou non? Emmanuel Calafiore a posé la question à Éric Bertrand. Il est responsable de l'Office central pour la répression du faux monnayage à la Direction centrale de la police judiciaire.
La plupart des billets sont infalsifiables. L'intérêt du faussaire, en fait, c'est de tromper la personne à qui il va passer le billet, c'est-à-dire ou le commerçant ou le particulier. Mais il ne trompera jamais une banque. Il y a plusieurs innovations. Ces billets-là reprennent une technologie qu'on retrouve sur les nouvelles gammes de billets de notamment de 20 et 50 euros, c'est-à-dire en fait le numéro émeraude, c'est le numéro qui se trouve en bas à gauche du billet, il représente le montant du billet, donc 100 pour 100 et 200 pour 200. Et ensuite, il y a donc ce qu'on appelle l'hologramme, c'est la bande qui se trouve donc à droite du billet, Et cet hologramme a été introduit, il ne se trouvait pas sur la première gamme. Et lorsqu'on incline le billet, il y a certains symboles qui apparaissent, symboles de l'euro, il devient plus clair, etc. etc. quoi. Plus vous mettez des signes de sécurité complexes, plus la contrefaçon va être détectable par les particuliers ou par les commerçants.
Et notez que les personnes falsifiant des billets risquent jusqu'à 30 ans de prison, 10 ans à l'encontre de celles qui les écoulent. Des averses sur quasiment tout le pays, voilà la météo prévue ce mardi. Côté température, comptez 13 degrés à Lille ce matin, 15 à Rennes, Paris et Lyon, 16 à Bordeaux, 21 à Marseille.